J'ai été invité il y a quelques années à me rendre à la cathédrale de Montréal à l'invitation de Monseigneur Grégoire, l'archevêque de Montréal, afin d'y rencontrer le Dalaï Lama, qu'il recevait en grande pompe dans la cathédrale. Le pape lui-même, Jean-Paul II, a reçu le Dalaï Lama, le chef spirituel des Tibétains, qui ne sont pas tellement nombreux, hein. Il ne faut pas exagérer l'importance, finalement, de la population tibétaine, une serait peut-être 3 millions, 4 millions. Et alors donc, le Dalaï Lama a été très bien reçu à la cathédrale devant un auditoire immense. Il y avait dans le chœur des moines trappistes, bénédictins, cisterciens, etc. Et il y avait aussi des représentants de la communauté catholique de Kanawake. Car, évidemment, nous savons que les Amérindiens nous viennent de l'Orient, mais ils sont ici peut-être depuis 25 000 ans, et j'entendais hier qu'ils y sont peut-être depuis 50 000 ans. Et alors donc, j'ai rencontré personnellement le Dalaï Lama, j'ai été très touché, et j'ai lu certains ouvrages, en particulier un ouvrage dont il était question hier à la télévision, à TV5, à l'émission Bouillon de culture. C'est l'ouvrage de Jean-Claude Carrière, qui était invité de Bernard Pivot. Et c'est un livre qui s'intitule « La force du bouddhisme ». C'est une entrevue que lui a accordée le Dalaï Lama l'an dernier, ou il y a 2 ans plutôt, presque 2 ans. Le sous-titre de ce livre qui s'intitule « La force du bouddhisme », c'est « Mieux vivre dans le monde d'aujourd'hui ». Or, il est question à la fin de cet ouvrage de Milarepa. Qui est Milarepa? C'est le plus grand saint, justement, du bouddhisme. Et il est dit à la fin de cet ouvrage, « La démarche suprême des bouddhistes tibétains conduit à la disparition des esprits mauvais, des démons, et même du Bouddha lui-même, et le vide est le grand but. » Le vide est le grand but. On peut se poser la question, nous, chrétiens, c'est un peu étrange tout ça. Et on ajoute, quand la vérité ultime est atteinte, a chanté Milarepa, et voilà ici le texte de Milarepa, il n'y a pas de méditant, il n'y a pas d'objet à méditer, il n'y a pas de signe d'accomplissement, et pas d'étape, ni de voie parcourir, etc. Parce qu'il dit, tout cela n'est que mots, mais façon de dire. Alors, on tombe dans une espèce de vide étrange. Et la fin du livre devient presque angoissante pour nous qui connaissons Jésus-Christ et par Jésus-Christ connaissons la Trinité. Mais qui était ce Milarepa? Qui était ce grand saint tibétain? Il n'appartenait pas, chose étrange, à un ordre monastique. On le considérait comme un laïc. Mais il s'inscrivait dans ce qu'on appelle la lignée de la transmission initiatique, Kagyu, mais je vous fais grâce de tous ces noms, et je vais sauter par-dessus, mais je le signale, celui-là, la transmission initiatique, c'est-à-dire le message qui a été transmis petit à petit, parce que ce message, Kagyu, signifie la lignée du Verbe, c'est étrange, hein, la lignée du Verbe, et nous qui sommes justement chrétiens dans la lignée du Verbe, mais du Verbe qui est le Fils éternel de Dieu, il y a une espèce de rapport étrange qui s'établit. Et alors, ce Milarepa se réfère, en somme, à la révélation du Bouddha, et qui est considéré comme un, en essence, avec Sakyamuni. Je vous fais grâce de ces choses un peu compliquées. Je vous dirai simplement que ce sage tibétain Milarepa, Milarepa ça s'écrit comme Mila, M-I-L-A, et Repa, R-E, accent aigu, P-A, mais d'un seul mot. Hein. Il a vécu au 11e siècle. Et le Tibet était autrefois réputé en Asie, n'est-ce pas, pour sa barbarie avant lui, n'est-ce pas. Et l'introduction du bouddhisme ne s'y est pas faite sans heurts. Hein. C'était quelque chose, c'est un peu comme le christianisme quand s'est établi en Occident, en Europe. Une première vague du bouddhisme est monté de l'Inde avec la venue au 8e siècle de 2 grands maîtres. Bon, je ne vous les nomme pas, c'est des noms compliqués. Mais elle s'est brisée bientôt contre les persécutions. Un roi qui était ennemi du bouddhisme les a persécutés. Mais après l'assassinat de ce roi du Tibet en 842, il y a une seconde vague qui est descendue des hauts plateaux. Et parmi eux, il y avait Marpa. Ça a été le maître, ça, de Milarepa. Marpa, on sait qu'il a vécu de 1012 à 1096. Et il a fait trois longs séjours sur cette terre dite sacrée qu'est le Tibet. C'était un peu mystérieux, cette terre du Tibet. Je me souviens que dans mon enfance, tout ça nous semblait tellement mystérieux. Et les premières fois qu'on a vu des films sur le Tibet, tout ça nous semblait extrêmement étrange. Il était question de démons, de lamas, d'espèces de fêtes étranges avec des bruits, des costumes. Et on chassait, disait-on, les démons. On en a énormément contre les forces du mal. Ne nous étonnons pas. Aujourd'hui même, à la messe d'un bout à l'autre de l'Église catholique, on lit l'Évangile selon saint Marc au chapitre 5. C'est le fameux possédé de Gérasa. Vous vous souvenez de ce possédé qui vivait dans un tombeau et qui brisait ses chaînes? Les gens l'enchaînaient, mais il les brisait quand même. Et Jésus le délivre de ces démons qui sont légions et envoie tous ces démons dans un troupeau de porcs qui se jettent dans la mer. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est ça qu'on raconte aujourd'hui. D'un bout à l'autre de l'Église catholique, le pape va lire cet évangile, et dans nos paroisses aussi, c'est l'évangile qu'on va lire aujourd'hui, qui est dans saint Marc. Donc, notre fameux Marpa, le maître de Milarepa, a enseigné les enseignements secrets des tantras. On entend ce mot-là souvent, les tantras, qu'est-ce que ça peut être? Ce sont des enseignements de méditation qui ont été révélés par le Bouddha, n'est-ce pas, le Bouddha qui a fondé le bouddhisme. Le Bouddha a quelque chose d'un peu semblable à Jésus-Christ dans un sens. Hein? C'est l'homme qui a enseigné finalement le vide de choses futiles et enseigné l'essentiel, hein? La compassion. Et ce sont des techniques yogiques, ce que l'on retrouve dans le tantra, elles ont été gardées secrètes. Enfin, je vous fais grâce de tous ces détails. C'est un peu compliqué. Mieux vaut lire des ouvrages sur le bouddhisme pour mieux comprendre. Et alors, c'est l'époque où le Tibet commence à rassembler ce qu'il sera jusqu'au XXe siècle. Ça n'a pas bougé jusqu'à aujourd'hui, sauf que là, maintenant, les communistes ont conquis le Tibet et le Dalai Lama a dû aller vivre en Inde, où d'ailleurs Jean-Claude Carrière l'a interviewé pour faire cet ouvrage « La force du bouddhisme » qui est publié chez Robert Laffont. Et alors donc, Milarepa n'a jamais quitté son pays, lui. Il a était sans doute le premier à incarner parfaitement, dans un contexte totalement tibétain, cet idéal de renoncement et de sainteté. De sainteté de ses prédécesseurs, les yogis de l'Inde. Milarepa, dont le prénom était Jetsun, est né non loin de Katmandou. Katmandou. Ça me rappelle, chose étrange, ça pourrait vous étonner, un roman plutôt mauvais, écrit par ma cousine Louise Beaugrand-Champagne et édité il y a une trentaine d'années. Il avait reçu une mauvaise critique de Gaston Miron. Mais enfin, passons. Katmandou, c'est la capitale du Népal, hein, vous savez ça. C'était le centre à l'époque, dans les années 60-70, où tous les jeunes rêvaient d'aller pour aller fumer du pot, probablement, et prendre du hashish. Et trouver là une espèce de supplément spirituel qu'ils ne trouvaient plus dans nos églises, prétendait-il. Et alors donc, Katmandou, s'il est allé là, il est né là plutôt, à l'automne de l'an de ce qu'on appelle le dragon haut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 1052. Dans une famille de marchands, ses parents étaient riches, étaient respectés et craints. C'était des plus riches propriétaires, fonciers. Et jusqu'à 7 ans, il a connu une enfance heureuse au sein de sa famille. Son père en était très fier. Et puis, il était le fils unique d'ailleurs. Mais son père est mort. Et là, ça a commencé à être difficile pour lui. Sa mère et sa sœur croyez-le ou non, sa sœur s'appelait, devrais-je dire, elle s'appelait Pita. Oui, oui, c'est pas un nom que je recommande à donner à vos enfants, n'est-ce pas? Et alors, dorénavant, je parlerai simplement de sa sœur. J'évite ce prénom qui me gêne un peu dans cette émission-ci. Et alors, ils l'ont pris en tutelle, sa mère et sa sœur, hein, selon la coutume. Et puis, finalement, peu de temps après, bien son oncle et sa tante ont pris tout le monde en tutelle. C'était finalement son oncle qui l'a élevé. Et puis, l'oncle et la tante étaient des gens plutôt malhonnêtes. Ils les ont appauvris, se sont emparés de leurs biens parce qu'ils étaient riches. Ils les ont réduits à la condition de serviteurs. Et dans la vie de Milarepa, on lit l'été, serviteur de l'oncle lors des travaux des champs. Donc, ils étaient les serviteurs de ce mauvais oncle. L'hiver, ben, ils étaient les serviteurs de la tante. Oui, sa vieille tante. Mauvaise tante qui les obligeait à faire des travaux de laine. Et là, la mère de Milarepa, c'était pas une femme pour se soumettre. Elle avait quelque chose d'un peu féministe en elle. Elle a attendu son heure pour se venger. Et quand son fils a atteint l'âge de 15 ans, elle l'a envoyé étudier. Pas n'importe quoi. Elle l'a envoyé étudier la magie noire. Quel étrange saint tibétain qui étudie la magie noire dans son enfance auprès d'un maître réputé en la matière. Et Milarepa a fait des progrès rapides en magie noire. Bientôt, il a mûri rapidement. Et la haine qui l'habitait, il n'en a plus voulu. Il a voulu remplacer ça par une forme d'obéissance, on peut dire. Et puis, il voulait transformer son oncle, mais il utilisait la magie noire. Alors, il était capable, dit-on, dans sa vie étrange, de faire s'écrouler la maison de son oncle, alors qu'on y fait un mariage. Et on dit que 35 personnes sont mortes dans les décombres. C'était vraiment de la magie noire, hein. Vous savez, c'est l'histoire d'un saint tibétain, là. On est loin des saints chrétiens, hein. Alors, l'oncle et la tante, cependant, en ont réchappé. Et alors là, notre jeune magicien a déclenché une grêle qui a ravagé les récoltes que se prêtait à moissonner, hein. Et là, il a été comme envahi par le sens du péché. C'était comme sa conversion, il y a eu un remords qui l'a tourmenté, au point de lui faire perdre le sommeil. Alors naît en lui un grand désir de se purifier, de se consacrer entièrement à ce qu'on appelle le dharma. Bon, ça c'est un mot ça vaut la peine de l'expliquer. D-H-A-R-M-A. On trouve ça souvent dans nos lectures des choses orientales. C'est tout simplement la voie du Bouddha. C'est la voie spirituelle. Le dharma. Comment traduirait-on ça en langage chrétien? Se convertir à l'évangile, quoi, hein? Alors, ces sentiments ont trouvé un écho chez son vieux maître en magie noire. Et le vieux maître magicien perfide, là, qui voyait la mort venir, a éprouvé lui aussi, à l'exemple de Milarepa, un repentir sincère sur ce qu'avait été sa vie. Alors, il oriente le jeune Milarepa vers un lama. Un lama, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas l'animal d'Amérique du Sud, évidemment. Le lama, comme on sait, au Tibet, c'est un maître spirituel, hein, un maître spirituel bouddhiste. Au Tibet, c'est le représentant le plus élevé de la religion. Disons que un curé, un prêtre, un religieux, c'est la même chose chez nous, mais évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil. Le lama, renommé, et qui enseignait le système dit de la grande perfection. Vous savez, c'est assez sérieux, ce système de la grande perfection. J'ai déjà écrit un ouvrage sur le bouddhisme, et je me souviens que j'avais été assez ébloui et émerveillé. J'avais fait des études à l'Université de Montréal, aussi avec Mme Nicolas, qui nous avait enseigné des choses très intéressantes. Mais j'ai jamais été tenté de me convertir au bouddhisme, quand même. Mais je sais apprécier, et il faut savoir apprécier ces choses-là pour en profiter à l'intérieur de notre foi chrétienne. Alors rapidement, le lama, qui enseignait le système de la grande perfection, s'est rendu compte que ces méthodes ne convenaient pas à notre jeune aspirant Milarepa. Il a donc essayé de se rendre auprès d'un certain Marpa dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans une certaine région qu'on appelle les falaises du Sud. Et là, Milarepa, dans le récit de sa vie, petit imaginaire, un peu, parce que c'est écrit au 15e siècle, et lui, il a vécu au 11e, 12e. Alors, il dit, dès que j'entendis le nom de Maurepas, je fus submergé d'un bonheur ineffable. La ferveur me fit sangloter. C'est intéressant, ça, la ferveur me fit sangloter. Je suis à peu près sûr que certains qui m'écoutent ont déjà sangloté comme ça, de ferveur à l'Église. C'est ce qu'on appelle le don des larmes. C'est ce qu'on appelle aussi en langage chrétien la componction. Ce sont des mots, je vous les utilise, la componction, puisque quand on lit ces ouvrages orientaux, ils sont toujours, ils nous arrivent avec des termes, le lama, le dharma, etc. Pourquoi on n'utiliserait pas nos termes chrétiens comme la componction, qui veut dire tout à fait ça. Mais le don des larmes aussi. C'est les larmes qui coulent naturellement. Et là, le Maurepas en question, c'est un curieux personnage. Et c'est vraiment un étrange professeur de religion. C'est une espèce de paysan, il est bon vivant. C'est un grand buveur aussi. Il a sa femme, ses enfants. Il est réputé pour sa nature même irascible et violente. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il va faire pour apprendre des choses spirituelles auprès d'un tel maître? Mais c'est l'histoire, en fait. Mais c'est un grand maître, dit-on, point de vue spirituel. Ça arrive. Moi, j'ai déjà rencontré, en faisant mes interviews à rencontre à Radio-Canada, là, avec Marcel Brisebois comme intervieweur, l'abbé Brisebois. Eh bien, il y avait des théologiens, des fois, qui avaient un peu mauvais caractère. Mais c'était des hommes très, très savants. Alors, mon Dieu, on dit ça. Je vous dis pas... Il y a même au 20e siècle des grands maîtres spirituels chrétiens dont on m'a dit, moi, personnellement, qu'ils avaient un peu de mauvais caractère à certains moments. On dit même que le frère André, parfois, avec un petit mauvais caractère. Et alors donc, notre grand maître dirigeait de nombreux disciples, je ne marre pas. Et il a enseigné toutes sortes de choses. Il les avait reçus, d'ailleurs, ses enseignements des grands yogis de l'Inde. Les yogis, ben, ce sont des ascètes hindous, hein. Qui pratiquent une espèce de méthode spirituelle et corporelle là, qui les amène à cette illumination. Illumination, vous savez que dans le christianisme, on a aussi l'illumination. Le moment où tout à coup les paroles de l'Évangile vous frappent au cœur, où tout à coup les paroles, là, des... vous savez, on lit ça dans les huit saints, ils sont, ben, prenons l'exemple de l'abbé Gérard Marié, simplement, il l'a raconté lui-même, il était à Saint-Benoît-du-Lac, il a entendu un Évangile qui a été lu à Saint-Benoît-du-Lac. Et c'était au début des années 70, il songeait peut-être à quitter le sacerdoce, il n'était pas très sûr. Et cette parole, tout à coup, de l'Évangile, l'a illuminé. Et il est devenu l'un des prêtres les plus merveilleux du Québec. Alors, lorsque Milarepa se présente à lui, à Maurepas, c'est immédiatement qu'il va devenir son plus grand disciple. Mais il sait en même temps qu'il doit, au début, le purifier de tout ce qu'il y a de négatif en lui, à cause de ses méfaits passés, sa magie noire. Aussi, alors, notre jeune novice... se heurte-t-il, dès le début, un maître qui est despotique, qui est capricieux, qui est méprisant. Alors Milarepa connaît la valeur de ce qu'il recherche. Il se sent prêt à tout accepter. C'est pas facile. Hein? Il supporte sans gémir toutes les rebuffades, les mauvais traitements. Parce qu'il croit que le lama est Bouddha en personne. Nous, chrétiens, est-ce qu'on ne croit pas quand on va se confesser, ou si on va recevoir le sacrement de la réconciliation, comme on dit aujourd'hui, ou si on assiste à la messe, le prêtre, c'est le Christ en personne. Et eux, ils croient que le lama est Bouddha en personne, et sans lui, aucune réalisation n'est possible. Le disciple lui doit une confiance et une soumission absolue, et Maurepas ne le ménage pas, son jeune disciple, Milarepa. C'est effrayant. Il rejette les offrandes qu'il fait avec dédain. Il se dit de ses promesses. Il le roue de coups, lui impose des travaux de force. Il lui demande en particulier de construire seul une tour sur le plan de laquelle il change sans cesse d'avis. Il la peut ronde, la tour. 9 étages. Tantôt semi-circulaire, tantôt triangulaire. Et à chaque fois, on raconte dans cette histoire qui est très légendaire, Milarepa, il édifie tout le monde. Parce que quoi? Il continue à construire, puis il détruit, puis il reporte les pierres à leur place. Ils ont dit que la dernière construction, carrée, à 9 étages, eh bien, c'était celle-là. Milarepa est brisé physiquement, le dos est infecté d'abcès, sans courage de quitter. Il ne trouve de consolation qu'auprès
étrange chose de la femme de son maître, parce qu'elle est comme une mère pour lui. Et alors Marpa est intraitable, et pourtant, en secret, on dit que ce lama, au caractère désagréable, verse des larmes sur les souffrances de son disciple. Et finalement, les épreuves ont suffisamment purifié le disciple. Et à l'étonnement de tous, Marpa révèle l'intention qui a pu dicter sa conduite, apparemment sans compassion, et le jeune Milarepa prononce les vœux de laïc fidèle. Il ne sera jamais moine, hein, puis il reçoit de son maître l'initiation aux pratiques tantriques. Les pratiques tantriques, c'est-à-dire, c'est ce qui qualifie, n'est-ce pas, les enseignements des tantras dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, Milarepa embrasse, dès lors, cette étrange existence des yogis solitaires, et loin des lieux habités par les hommes, presque hors du temps, et le plus souvent dans une grotte, et dans une grotte plutôt de très haute altitude. Il a pour tout vêtement un châle de coton, et c'est là que vient le surnom de Repa, ajouté à son nom de famille Mila. Et il reste jour et nuit assis en méditation, car leur règle de vie veut qu'ils ne s'allongent jamais et ne quittent pas leur place assez longtemps pour qu'elles refroidissent, dit-on. C'est curieux. Alors Milarepa s'exerce aux différents types de méditation tantrique, plus particulièrement ce qu'on appelle la furieuse. En langage tibétain, ça s'appelle Tumo, qui, par une espèce de travail systématique là, sur ce qu'ils appellent les énergies subtiles, c'est étrange, hein, ça permet de les canaliser vers le grand éveil, l'illumination, et secondairement, ça engendre une chaleur bénéfique. Hein. C'est comme la méditation chrétienne, plus particulièrement l'oraison chrétienne. Mais notre oraison est beaucoup plus belle, parce que c'est en présence de Dieu, et eux, pour eux, Dieu n'existe pour ainsi dire pas. Et de nos jours encore, les yogis, qui se réclament de son ascendance, ils marquent leur accomplissement de cette espèce d'art de la méditation à l'occasion de l'anniversaire de son passage en l'au-delà, qui est fêté au plus froid de l'hiver, et c'est ces jours-ci que l'on fête là-bas le grand Milarepa. Ils sont vêtus de simples cotons, puis passent la nuit entière à chanter les chants de leur maître. Alors je vous retrouve tout à l'heure pour continuer cette vie de Milarepa en parallèle avec nos grands mystiques chrétiens. Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle et au microphone Raymond Beaugrand-Champagne. Si vous entendez du bruit, c'est que nous sommes sur la place publique. Je suis un peu comme Saint Paul sur la place publique à Athènes, qui osait annoncer la résurrection de Jésus-Christ et qui osait parler, pour ainsi dire, de la Trinité. C'était pas facile. La prédication à travers les 2000 ans de notre Église s'est souvent faite en public, devant tout le monde, devant des opposants. Et combien de fois les grands prédicateurs, les grands saints ont prêché devant des auditoires qui leur étaient complètement contraires. Ce n'est pas, je l'espère, le cas ici, à la place Bonaventure, d'où je vous parle. Dans un ouvrage publié encore chez Robert Laffont, qui s'appelle « Dictionnaire de la sagesse orientale », il y a un article sur Milarepa, très intéressant, et justement, il y a une page pleine d'une image où l'on représente Milarepa dans sa grotte de méditation de l'Himalaya, hein, au Tibet. Ce sont des images que l'on revoit souvent hein, de Milarepa, puisque c'est le plus grand saint du bouddhisme tibétain, un peu comme notre saint François d'Assise serait notre plus grand saint dans le christianisme, particulièrement le christianisme catholique. Et alors donc, en même temps qu'il se fait ermite, notre Milarepa devient poète. Il prend l'habitude d'exprimer son expérience intérieure et ses enseignements sous la forme de chants. Et ces chants sont devenus tellement populaires que c'est celle par cette cette répétition de ces chants que les Tibétains apprennent les grandes choses. Ça ressemble un peu à notre catéchisme que nous on apprenait par cœur quand j'étais enfant. Ben oui, à 6-7 ans, on apprenait les plus grandes choses sur le sens de l'existence. Nous apprenions en particulier à répondre à cette question étrange : pourquoi sommes-nous sur la Terre ? Et c'était nous sommes sur la terre pour apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à le servir, pour être heureux avec lui pendant l'éternité. On apprenait ça par cœur et ça nous restait au cœur. Moi, ça m'est resté au cœur dès l'âge de 6-7 ans. Et alors donc, Milarepa a passé ses premières années de méditation solitaire dans les environs de la demeure de son maître. Et jusqu'à ce que se lève en lui un désir profond de revoir son village, sa mère, sa sœur. Alors au village natal, il a trouvé de la désolation. C'était épouvantable. Sa sœur était partie en mendiant, sa mère était morte. Et Milarepa s'est consacré avec plus de force encore à la recherche de ce qu'on appelle la réalité ultime, comme nous. Et cette réalité ultime que l'on ne perd même pas quand on meurt, que tout change dans notre vie, cette réalité ultime est toujours là. Quelle est cette réalité ultime? Pour eux, c'est une vie qui conduit à l'éveil. Il dit, une vie qui conduit à l'éveil vaut plus qu'un milliard de mondes emplis d'or. Mais cet éveil, étrange chez les Tibétains, quand un des invités s'est écrié « Pourquoi l'univers existe-t-il plutôt que rien ?» Et s'il existe, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, une idée, une pensée? Et il éveillait tous ces incroyants à l'existence de Dieu, cette illumination, cet éveil. Alors 4 ans durant, notre Milarepa, notre saint Milarepa, si on peut dire ce saint bouddhiste, est demeuré dans la même grotte sans rencontrer âme qui vive. Un peu comme ce fameux Père Jean que j'avais interviewé à Rencontre à la télévision de Radio-Canada. Le Père Jean, un trappiste de l'abbaye d'Aigbel, qui était d'ailleurs supérieur de l'abbaye. Il n'aimait pas qu'on l'appelle abbé. D'ailleurs, il ne portait aucun des insignes des abbés. Et alors, il voulait être un frère parmi d'autres. Le premier peut-être, mais un frère. Et le Père Jean, les deux entrevues qu'il nous avait données, ça a amené à la conversion quantité de gens. Quantité de gens, je les ai présentés, moi, je les avais sur cassette chez moi, je les montrais combien de gens se sont convertis chez moi, comme ça. Alors, plusieurs années de son régime, comme ça, l'ont rendu squelettique. Un jour, un troupe de chasseurs qui l'ont découvert par hasard, sont allés jusqu'à le prendre pour un fantôme, et l'ayant reconnu pour un humain, ils sont passés de la frayeur à l'admiration, de l'étonnement à la vénération. Ils lui ont offert une grande quantité de nourriture. Et là, comme le Bouddha, qui lui, après 6 ans d'ascétisme extrême, nous spondissait dans la vie de Bouddha, il avait retrouvé ses forces physiques, lui, lorsqu'une jeune bergère lui avait offert un peu de riz cuit dans du lait. Alors lui, ça l'a aidé aussi. Et les provisions des chasseurs, ça a produit le même effet sur Milarepa que sur le Bouddha. Et son corps a revécu, sa méditation s'est dilatée. Et là, bien, plus tard, c'est sa sœur qui a retrouvé son frère qu'elle croyait mort, mais quelle honte de le voir vivre comme une bête sauvage. Alors là, il n'aurait pas connu le danger de vivre comme les lamas qui étaient plus préoccupés parfois de recevoir des offrandes que de progresser spirituellement. Hein? Un peu comme certains prêtres autrefois qu'on voyait qui avaient de grosses voitures, qui passaient leurs vacances en Floride. C'était un peu un scandale ici à Montréal de quelques prêtres. Hein? Et ils préféraient recevoir des offrandes. Ils avaient oublié leur sacerdoce. Mais aujourd'hui, nos prêtres sont bien transformés par le concile, bien transformés par l'enseignement spirituel du pape, bien transformés par l'enseignement. Hier, je voyais à la télévision de Radio-Canada notre merveilleux primat de notre église, l'archevêque de Québec, interviewé par Jean-François Lépine. Que c'était puissant comme entrevue extraordinaire. Et alors donc, Milarepa a connu le danger. Il a écrit des choses merveilleuses, craignant de dériver, disait-il, vers les 8 sentiments mondains. Les 8 sentiments mondains, chez les bouddhistes tibétains, c'est être affecté, soit par le gain ou la perte, la notoriété ou l'anonymat. Vous savez, quand on est ignoré, ben on est affecté. Quand on est trop connu, on est affecté parce qu'on est, on se croit glorieux, on se croit le centre nombril du monde. Et puis il y a aussi le blâme. On est affecté par le blâme et d'autres sont affectés par la louange. Mais oui, ils bombent le torse. On peut être abîmé aussi, disent les Tibétains, par le plaisir. Oui, affecté par le plaisir ou bien par la douleur, encore pour les mêmes raisons. Et il disait à un moment donné, si je médite tant que je vivrai, je montrerai à mes futurs disciples parfait exemple qui les conduira au renoncement et à la contemplation. Comme font d'ailleurs tous les temps contemplatifs chrétiens, pensons à ce trappiste qui nous parle à 8h30 le matin à Radio Ville-Marie, le père Yves Girard, hein, de la Trappe d'Oka. Alors finalement, Milarepa a accueilli chacun comme il est. Il donne à chacun de ses disciples qui viennent le trouver ce qu'il peut recevoir, mais à la différence de son maître Marpa, jamais il n'est violent. Il veut répondre par l'amour. Oui, par l'amour, c'est assez étonnant, hein? Et il préfère la douceur. Ou si besoin est, même, et il se montre parfois avec ses disciples assez moqueurs. Il est taquine. Il ne fait plus aucune distinction de personne, Milarepa. Riche ou pauvre, savant ou ignorant, homme ou femme, il accepte tout le monde et la sincérité, la foi, le courage sont les seules qualités requises. C'est ça qu'il demande à ses disciples. Un peu comme on demande dans une congrégation religieuse qui se tient debout dans notre église, c'est ça qu'ils veulent. Les maîtres des novices, ils veulent la sincérité chez le jeune novice. Au grand séminaire, c'est la même chose. La foi, le courage, ce sont les qualités requises. Ça en prend du courage aujourd'hui pour devenir prêtre. Il y en a tellement peu. Alors, par vocation, Milarepa se tient à l'écart des compromissions du monde. Il fuit le monde. Manifeste souvent peu d'estime pour les monastères constitués, les grandes organisations, et pour les savants aussi. Il n'a jamais désiré créer d'ordre religieux, même si sa descendance spirituelle s'organise petit à petit en institutions plutôt structurées. Milarepa n'a jamais non plus écrit de traité dogmatique. Bien que le récit de sa vie, là, puis c'est les chants dont je vous ai parlé tout à l'heure, contiennent toutes les données fondamentales du bouddhisme, notamment la pratique de la compassion. C'est très important. Dans le bouddhisme, la compassion, elle habite le Dalai Lama, mais pas de la façon tout à fait chrétienne. C'est une qualité qui est très développée dans le bouddhisme du grand véhicule. La compassion, ils comprennent là-dedans là, que tout cheminement spirituel doit être orienté vers le bien d'autrui, disent-ils, plus particulièrement vers la libération de tous les êtres. Alors la compassion, c'est plutôt la libération intérieure. Hein? Libérer intérieurement les êtres pour leur faire comprendre l'inutilité des futilités. Alors il était inévitable que des lettrés puis des responsables de communautés là autour de lui en viennent à l'attaquer. Un peu comme les fondateurs des ordres dans notre Église ont été attaqués. Combien de fondateurs d'ordres? Prenez simplement Saint Jean de la Croix, notre grand Saint Jean de la Croix. Il a été enfermé par ses confrères pendant 2 ans, imaginez, parce qu'il ne voulait pas entendre parler de cette réforme qu'il voulait accomplir. Hein? Alors, ils ne l'aimaient pas parce qu'il attirait à lui toutes sortes de disciples, et puis faisait l'admiration du peuple. Alors, finalement, il y en a un qui avait une haine tellement forte qui a cherché à l'empoisonner avec du lait caillé. Du lait caillé empoisonné, évidemment. Et ça rappelle Saint-Benoît. Pensez à Saint-Benoît. On a essayé de l'empoisonner lui aussi. Et ça, c'est au début du 6e siècle. Oui, Saint-Benoît, fondateur des grands ordres monastiques qui sont les bénédictins, puis finalement aussi, si on veut, les cisterciens, les trappistes. Et alors, ce sera le dernier acte de compassion de Milarepa, parce que, sachant qu'il y a du poison dans ce lait caillé, bien, il le boit quand même. Et, en exprimant ainsi cette espèce de patience profonde, sa bienveillance, il en arrive à convertir son meurtrier. Or, que ça rappelle le pape Jean-Paul II avec Ali Aksha en prison à Rome, n'est-ce pas? Où il arrive presque à convertir son meurtrier, en tous les cas, il l'amène à la douceur. Alors, notre Milarepa meurt finalement à l'âge de 84 ans, au lever du jour. On dit le lever du jour qui précède la pleine lune de janvier-février. En 1136, il y a donc, ces jours-ci, 860 ans. Il est évident que l'exactitude de toute cette histoire de la vie de Milarepa, on peut en douter, parce que ça, c'est un certain Eruka qui a vécu au XVe siècle qui en serait l'auteur de cette vie. Mais beaucoup d'inconnus demeurent autour de ce texte. Et de même, ces chants, les chants qui servent à l'enseignement là-bas au Tibet et à travers le monde. Vous savez qu'on a des Tibétains ici, à Brossard. Je les avais rencontrés quand j'avais rencontré le Dalai Lama dans la sacristie de la cathédrale. Il y avait derrière lui deux petits Tibétains de Brossard, puis il y en avait un qui avait dit à l'autre en un parfait accent québécois populaire, « Oui, t'en veux-tu des biscuits village et puis du jus d'orange ?» J'étais stupéfait de voir ces deux petits Tibétains à côté du Dalai Lama qui parlaient avec cet accent de chez nous, bien qu'ils étaient coiffés comme des petits Tibétains et habillés comme des petits Tibétains. C'était merveilleux, amusant et charmant à voir. Alors les chants ont été transmis comme ça, oralement au début, puis finalement, bien, il en existe deux collections. Ce qu'il faut retenir tout ça chez Milarepa, c'est la beauté puis la grandeur de cet homme, la beauté intérieure. Il y a une profonde humanité chez ce saint Milarepa, ce saint tibétain, et son caractère exemplaire, il y a une grande ressemblance avec le Bouddha. Il y a une enfance heureuse, comme le Bouddha, suivi d'un contact brutal avec la souffrance, et c'est ça qui transforme souvent nos vies. C'est quand on est en contact subitement avec la souffrance, et ça débouche chez nous à faire un peu une consécration. C'est quand la consécration est entière qu'on trouve le bonheur. Parce que là, quand la consécration de notre cœur est entière en Jésus-Christ, qu'on peut faire cette recherche spirituelle, chrétienne, comme eux font leur recherche spirituelle bouddhiste. Ça arrive des fois qu'il y a un excès d'ascèse, de pénitence. Ça vient corriger quand même les facilités dans lesquelles nous étions plongés. Et puis, chez lui, bien, il y a aussi cette nourriture empoisonnée, parce que le Bouddha aussi est mort d'une nourriture empoisonnée, et on dit qu'il est mort d'une viande avariée qu'on lui avait fait manger. Donc, du XIIe siècle à l'invasion chinoise des communistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans les années 50, bien, les institutions politiques et religieuses du Tibet on subit toutes sortes de remous, c'est sûr, mais la vie quotidienne n'a guère changé. Ça explique peut-être que les Tibétains, qui sont au fond un peu pleureux, n'accordent pas d'importance à la succession des siècles. Le temps les indiffère. Que Milarepa ait vécu au XIIe ou au XVIe siècle, après tout, quelle importance? C'est un peu comme nous. Quelle importance ça que Saint François d'Assise a vécu à la même époque, ou à peu près, ou au XVIe siècle. Quelle importance, Saint François d'Assise, nous l'aimons, pourquoi? Parce qu'il est le plus près du cœur de Jésus, le plus près du cœur de l'Évangile. C'est pour ça que les Tibétains aiment leur Milarepa, parce qu'il est tout près du cœur du Bouddha, il est tout près des enseignements. Et les solitudes glacées, là où ils vivent, et puis, ça les rapproche de ce Milarepa qui a vécu dans le même endroit. Il est vrai que, au début du bouddhisme, au Tibet, Milarepa y a manifesté, si on peut dire, les qualités dans lesquelles tout un peuple va connaître ce grand idéal spirituel qui l'habite. Et en ce sens, Milarepa remplit la fonction qu'avait prédite un saint indien dont j'espère vous parler un jour, qui s'appelait Naropa, qui était le maître de Marpa. Il avait dit, dans les ténèbres du Tibet, Milarepa sera le soleil se levant sur la neige. Et c'est tout à fait ce qui est arrivé. Il est vrai aussi qu'aux yeux des habitants de ce qu'on appelle le toit du monde, vous savez que c'est le surnom de, comme on dit de Haïti, qu'elle est la perle des Antilles, on dit du Tibet qu'elle est le toit du monde. Eh bien, aux yeux des habitants de ce toit du monde, celui qu'ils ont sacré prince des yogis s'inscrit moins dans le temps que dans l'éternité pour eux. Milarepa, c'est vraiment ce grand, grand lama, ce grand saint. Le mot lama c'est une traduction tibétaine du sanskrit. En sanskrit, c'est gourou qu'on dit. Eux disent lama, c'est le maître spirituel. Ça doit être interprété à trois niveaux. On s'appuie sur les différentes syllabes pour ça. Mais le ma, spécifions que le ma, c'est un suffixe qui est ajouté à un adjectif, le mot la, la syllabe la, et ça veut dire suprême, insurpassable. Quand je vois ça, j'ai le goût de penser à tous les sages que j'ai eu l'occasion de rencontrer en faisant des émissions rencontres à la télévision et les saints que j'ai eu la chance de rencontrer. Ce sont des gens insurpassables, car la sainteté est ce qu'il y a d'insurpassable. Quand on acclame nos vedettes, on acclame souvent du vide. Quand on acclame nos hommes politiques, on acclame sans doute un certain esprit de service, mais qui est bien souvent entaché par bien des choses. Mais quand on acclame un saint véritable, on acclame ce qui est insurpassable. Et donc le lama, c'est la personne qui ne peut être surpassée, en ce sens qu'elle introduit dans le domaine spirituel, qui est supérieur à tous les autres, quelque chose qui est extrêmement important. Et quand on y pense, si le lama apporte quelque chose au domaine spirituel qui est supérieur à toute autre activité, c'est exactement le même rôle que remplit un prêtre, catholique ou orthodoxe. Tout pasteur chrétien, un vrai pasteur, là je parle des vrais prêtres, je ne parle pas des bourgeois, je parle un prêtre qui sait ce qu'il est, qui a la chance et la grâce de remplir vraiment son rôle. Un pasteur protestant qui est vraiment convaincu, un prêtre orthodoxe. Mon Dieu, tous ces gens qui sont convaincus que ce qui compte, c'est le bonheur intérieur, qui vient de la compassion profonde que nous enseignent les Tibétains. Le lama, c'est celui qui personnifie la sagesse, la compassion et l'union de ces deux qualités. Ça exprime la plénitude de la vie spirituelle selon l'idéal du Mahayana et en somme du christianisme. Pensons, qui représente le plus la compassion présentement dans notre Église à travers le monde? On revient toujours à Mère Teresa, mais là, il y a des centaines de milliers de personnes dans notre Église qui vivent à fond cette compassion. Je voyais à la télévision hier une femme qui s'occupait d'aider les gens qui ont beaucoup souffert à Châteauguay ces jours-ci à cause de l'inondation. Quelle compassion il y avait dans son regard. Une mère de famille, une Québécoise, ça existe chez nous, dans nos familles, près de nous. C'était réservé à l'origine, ce nom de lama, au seul maître, qui possédait une haute réalisation spirituelle. Puis finalement, le terme s'est élargi au sens d'instructeur spirituel. Un lama, c'est un instructeur spirituel qui est moine ou laïque, mais qui a une certaine expérience de la contemplation, qui est capable d'effectuer des rituels. En somme, tout moine n'est donc pas lama, mais tout lama n'est pas forcément atteint de cet éveil, de cette humiliation profonde. En somme, confronté depuis peu à toutes sortes d'autres cultures, les Tibétains utilisent volontiers le terme de lama quand ils parlent de nos prêtres, oui, oui, et de nos pasteurs, puis des popes orthodoxes et des imams musulmans. Les Tibétains utilisent le terme lama. Je vous disais que des grands spirituels, il y en a chez les Tibétains, et en particulier leur Dalai Lama, et l'un des plaquettes qui a été publiée aux éditions Olizan, c'est la compassion et l'individu. C'est par le Dalai Lama. Et savez-vous quel est le nom de ce Dalai Lama? C'est inscrit sur cette petite brochure. C'est Tenzin Gyatso, tout simplement. Bien oui, étrange nom. Et c'est le 14e Dalai Lama. Simplement le 14e, car ils les prennent très jeunes. Vous savez qu'ils croient, eux, à la réincarnation. Ce qui est contraire à notre foi, c'est dans l'Écriture. Mais nous avons aussi, nous, nos grands sages. À travers l'histoire de l'Église, il y a en particulier une femme qui est, à mon avis, la plus grande, c'est Thérèse d'Avila, et qui nous a enseigné non seulement cette méditation profonde, chrétienne et aussi l'oraison. Et pour Sainte Thérèse d'Avila, l'oraison, c'est la prière contemplative comme donnée par Dieu. L'oraison, c'est pas nous qui la faisons finalement. C'est un don de Dieu pur et simple, dit-elle. Et l'oraison est donnée à partir de la méditation sur l'humanité de Jésus. On médite sur l'humanité de Jésus comme elle l'a fait. Et sa grande conversion à Thérèse d'Avila, ça a été une espèce de statue pénible, ensanglantée, qu'elle voyait dans le corridor de son cloître. Et elle s'est tout à coup attendrie sur Jésus. Comme j'ai eu l'occasion de le faire, et ça m'a été donné merveilleusement, quand j'ai fait un film d'une heure sur le Saint-Suaire de Turin, je suis allé à Turin, à Londres, à Paris, aux États-Unis, et j'ai rencontré des tas de gens qui s'intéressaient à cet objet, et sur cet objet, on voit le corps de Jésus, flagellé, crucifié, couronné d'épines, on voit le sang, et l'humanité, tout à coup, de Jésus, m'est entrée dans le cœur. Et ça m'a fait aboutir à la connaissance, il me semble, beaucoup plus intérieure des trois personnes divines. Et c'est ça que l'oraison chrétienne donne, la connaissance des trois personnes divines. Une expérience de la Trinité qui nous est donnée profondément durant l'Eucharistie. Car je vous le rappelle et je vous le redis, l'Eucharistie, c'est une prière communautaire d'Église qui s'adresse à Dieu notre Père, qui nous permet de nous unir à son Fils Jésus, le Verbe éternel, en recevant son corps vivant, ressuscité, dans l'union de l'Esprit Saint et cet Esprit d'amour. En terminant, je vous signale la parution, à Paris, d'une revue merveilleuse, Science et Avenir, le numéro de janvier, qui est en vente actuellement. Ce que la science sait de Jésus, dit le titre. Alors, il y a des nouvelles polémiques autour du linceul de Turin, et l'article très très bien conçu nous montre que le Saint-Suaire de Turin, le linceul du Christ, est authentique. Il y a aussi des dernières révélations sur l'évangile de Marc, qui nous montre que l'évangile de Marc date de peine quelques années après la mort de Jésus-Christ. Ce sont des articles extrêmement intéressants qui renversent tout ce qu'on disait depuis des années. Science et Avenir, numéro de janvier 1996. Et pour ceux qui s'y intéressent, il est écrit aussi un long article où se cache la vie extraterrestre. Ça peut attirer bien du monde. Je vous laisse là-dessus. Je vous conseille donc, si vous allez à la messe aujourd'hui, de bien remarquer cet évangile sur la possession diabolique, chose étrange qui nous rapproche un peu de la spiritualité des Tibétains qui dansent, sautent, se costument pour chasser les démons et pour se purifier. Chose étrange, nos religions se ressemblent, mais j'aime mieux la mienne, j'aime mieux la nôtre, et je respecte beaucoup la leur.